France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'étrange histoire de Mad Mike Hughes, l'homme qui croyait que la Terre était plate et qui était prêt à se propulser dans l'espace pour le voir de ses yeux voir. Profession astronaute amateur. Il existe des activités moins dangereuses, mais Michael Hughes a choisi celle-ci. Entre 2014 et 2020, cet Américain a tenté l'improbable, partir dans l'espace dans son propre vaisseau pour aller vérifier de là-haut que la Terre est plate. Mais enfin, pourquoi au XXIe siècle se mettre en tête une idée pareille? On peut choisir d'en rire. On peut aussi essayer d'y trouver un sens. Car au-delà du ridicule, la vie et les ambitions de Hughes éclairent d'une façon singulière une Amérique délaissée pour compte. Celle qui a grandi à l'ombre des mythes américains sans jamais y prendre part. Celle qui s'est laissée séduire par Donald Trump. Celle pour qui les États-Unis sont la terre de la liberté et pour qui, sur cette terre, le mensonge est une opinion comme une autre. Dans cette époque épique, il y a ceux qui veulent sauver la planète et ceux qui veulent l'aplatir. Penchons-nous sur le cas de ces derniers. Notre invité aujourd'hui, Jean-François Mayer, historien des mouvements religieux européens, auteur d'un article intitulé « Les nouveaux croyants de la Terre plate ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Ok.
Ok.
It seems qu'il entre like dedans.
Down.
All right, ladies and gentlemen.
Mesdames et messieurs, Mike est juste là. Il grimpe sur sa fusée à vapeur. Il entre.
We've seen this before, though.
Ouais, mais on a déjà vu ça.
We have seen this before.
Tu crois qu'il va le faire?
The generator's been shut off.
Le générateur est éteint. On est prêt. Il y a de la pression. Mike embarque dans sa fusée à vapeur. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à assister au lancement aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il va décoller.
Qu'est-ce que t'en penses, Paul?
You know, I still have my doubts.
J'ai encore des doutes.
You still have your doubts, brother.
Je le vois monter, et il y a tout le monde qui dit, oh my God, c'est maintenant, c'est maintenant. Mais il nous a déjà fait le coup. Je l'ai emmené dîner et je me suis pas fait sucer. Ok, on va dégager, on va zoomer sur Mike qui entre dans le cockpit.
Désert de Moravie, Californie. De grandes collines de couleur ocre, un sol d'une aridité totale, fait de sable et de rocailles, et qui s'étend aussi loin qu'on puisse voir, c'est un décor martien. À ceci près qu'il est parsemé de petits buissons verts aux fleurs jaunes qui ont percé dans la poussière, et qu'il y a, en ce 24 mars 2018, un attroupement de curieux. Et il y a de quoi? Sous leurs yeux, un homme s'apprête à décoller dans une fusée artisanale. Les deux commentateurs travaillent pour une télé en ligne, Noise TV. Ils ont une drôle d'apparence, ces deux-là. Lunettes de soleil rétors, des tatouages jusqu'au cou et jusqu'au bout des doigts. L'un en chemise violette aux manches retroussées. L'autre en débardeur et veston avec de lourdes boucles d'oreilles, moustaches et crêtes rabattues sur l'arrière du crâne. Ces deux-là ne tiennent pas en place et sont secoués de gestes nerveux. La scène a des allures de Mad Max. Ça tombe bien. L'homme dans la fusée se fait appeler Mad Mike.
I am Michael Hughes, better known as Mad Mike Hughes for some unknown reason, I guess. And I live in Apple Valley, California, which is in Southern California, and it's a place called the High Desert.
Michael Hughes, 62 ans, n'en est pas à son premier essai. C'est pour ça que les commentateurs n'y croient pas vraiment, comme on vient de les entendre. Hughes a déjà annoncé l'exploit deux fois, mais la fusée n'a pas décollé. Il faut dire qu'elle est étrange, cette fusée. On croirait un missile. C'est un cylindre de 5 ou 6 mètres de long, un cône à l'avant, des ailerons à l'arrière. Il y a une trappe pour entrer dans le cockpit et un propulseur duquel de la vapeur est prête à jaillir. Elle est fixée à une rampe orientée à presque 90 degrés et soutenue par un mobilhome. Le cockpit est blanc et l'arrière couleur vert pomme. Dessus, on lit trois mots imprimés. Research Flat Earth, recherche Terre plate. Mad Mike est financé par une organisation qui croit en effet que la Terre est plate. Tous ces nouveaux livres qu'il va falloir écrire, dit l'un des commentateurs. Et Mad Mike va être sur la couverture, et les livres diront « Fuck la science ». Je ne crois pas à la science, je crois en Mad Mike. Un peu plus raisonnable, son compère tempère. Mais au fond, ça changerait quoi, hein? Si la Terre est plate, tu vas te bourrer la gueule ce soir? Ouais, et si la Terre est ronde, tu vas te bourrer la gueule ce soir? Ouais, exactement. En réalité, ces deux personnes se fichent de la forme de la Terre. Comme les milliers de personnes qui regardent l'événement en live, ils assistent au spectacle, oui, au spectacle d'un homme qui va mourir pour rien. Mad Mike est dans le cockpit, tête en bas, regard perdu dans le ciel. L'un de ses compagnons, du nom de Valdo, ferme le cockpit du haut d'une échelle. Tout est prêt.
Ok,
les gars.
They got him in there.
Ils l'ont mis à l'intérieur, ils ferment la trappe.
Les vis ne sont pas toutes serrées.
C'est là qu'il abandonne.
Je crois pas.
Ou alors les ovnis vont arriver. Les aliens ne veulent pas qu'on découvre que la Terre est plate parce qu'on risque de découvrir que Dieu existe et que Dieu, c'est eux.
Mad Mike, va-t-il vraiment décoller ou tout ce spectacle n'est-il qu'une arnaque? La veille au soir, au même endroit, il a dîné avec ses amis. Ils étaient assis sur des chaises de camping autour d'un feu. Alors Mike a regardé les étoiles et a dit à Valdo « Tu penses vraiment que tu peux m'emmener là-haut, Valdo ?» Lequel a répondu « Je sais pas, Mike. Va falloir réfléchir. » Que voyait-il dans le ciel à ce moment précis, Mad Mike? Les étoiles, quelle forme avaient-elles à ses yeux? Ce serait pratique de s'approcher un peu pour voir. À côté d'eux, la fusée attendait et un drapeau américain planté dans le sol flottait dans le vent froid de ce désert terrien. Et voici la voix de Mad Mike dans un clip sorti avant le lancement.
Je ne sais pas si la Terre est plate, je ne sais pas si le monde est plat, rond ou d'une autre forme, mais je veux que tout le monde se pose des questions, c'est ça le projet. Ce décollage est fait pour lancer une nouvelle émission sur Noise TV, qui s'appelle Vérité, où on va chercher des réponses. Et aussi pour annoncer ma candidature au poste de gouverneur de Californie. Donc soyez présents le 3 février pour me voir battre mon record.
En plus de partir dans l'espace, il veut donc être gouverneur de Californie. Pourquoi pas? On n'est plus à ça près. Alors à quoi ressemble-t-il cet homme? Oh, un gabarit à la Tom Cruise, assez petit mais avec une certaine carrure, un sourire Colgate et des cheveux gris un peu plus longs devant que derrière auxquels il attache beaucoup d'importance. Son regard est naïf et lui donne un air d'enfant. Et comme Tom Cruise dans Top Gun, Mike pose avec lunettes de soleil, combinaison et casque sous le bras. Est-ce son idée ou celle des journalistes? Sûrement les deux. D'où vient-il maintenant? D'Oklahoma, entre le Texas et le Kansas. Il est né en 1956, l'année précédant le lancement de Sputnik 1 par l'Union soviétique. Mad Mike est un enfant de la conquête spatiale. Il a 2 ans quand est fondée la NASA, 5 quand Gagarine est le premier homme à aller dans l'espace et 13 quand Armstrong et Aldrin posent le pied sur la Lune. Il est certainement fasciné par cet exploit, qui ne le serait pas. D'autant que sa passion, ce sont les moteurs. Pas encore de fusées, mais de motos et de voitures. À 13 ans, il fait déjà des courses, et pas qu'au supermarché, non, sur un circuit. Son père est mécanicien et pilote amateur. Mais c'est un père qui n'est pas très aimant. En y repensant plus tard, l'ancienne femme de Michael Hughes dira « De quoi tu as manqué? Pourquoi faut-il que tu fasses tout ça ?» Mystère de la psychologie. Reste que Michael Hughes poursuit ses rêves de course automobile, qu'il devient bon pilote, suffisamment en tout cas pour diriger une équipe amateur, mais pas assez pour en vivre. Non, ce dont il vit, c'est de sa limousine. Parce que Mike est chauffeur de limousine. Ce qui n'a pas beaucoup, et qui n'est pas à la hauteur de son ambition. On l'aura compris, toute son histoire tient à sa soif infinie de reconnaissance. Or, dans son monde de la bagnole, il y a 2 catégories de vedettes. Les pilotes et les cascadeurs. Et à la fin d'une journée tristement semblable aux autres, Mike fait un rêve. Il raconte, dans le documentaire Rocketman, une épiphanie d'un nouveau genre.
Je me suis dit, je veux faire quelque chose de fou. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'assois, j'allume la télé, il y a les Teletubbies. Tu te souviens? Je me suis endormi devant les Teletubbies. Et j'ai rêvé que je sautais en limousine. Dans le ventre d'un des Teletubbies. Quand je me suis réveillé, je me suis dit « Waouh, c'est une putain d'idée. Sauter en limousine, personne ne l'a jamais fait. »
» Dont acte. Dans une arène et sous les projecteurs, la limousine de Michael prend de la vitesse, monte sur un tremplin, s'envole et s'écrase 30 mètres plus loin. Elle se retourne mollement sur un tas de pneus et le public applaudit. Michael a le dos cassé, mais il entre dans le livre des records. Bon, c'était pas très bien, c'était pas compliqué, personne n'avait eu l'idée. Mais sûrement que le soir même, une fois rentré chez lui, seul, Mad Mike se dit qu'il en faudra plus pour entrer dans l'histoire. Nous sommes en 2002, il a 46 ans, une ex-femme et deux enfants avec qui il n'est plus en contact. Il n'a qu'un chat pour compagnon, qui s'appelle Jojo et qu'il adore. Alors, que peut-il faire de plus grand ? Eh bien, il y a quelque chose en tête, un souvenir de jeunesse. En 1974, un cascadeur fait parler de lui. Il s'appelle Abel Neville. Il se présente habillé façon Elvis, tenue moulante blanche et bannière étoilée à la ceinture. Sa fusée sur la rampe de lancement, au bord d'un canyon. Objectif, atterrir de l'autre côté. Il se souvient, Mad Mike, qu'il avait 18 ans à l'époque. Oui, il se souvient de la foule et des cow-boys avec des fusils à pompe qui assuraient la sécurité du cascadeur, du drapeau américain brandi en haut de la rampe, et que ça n'a pas marché, que le cascadeur est tombé dans la rivière. Alors voilà l'idée. Mad Mike, lui aussi, va construire une fusée dans son garage et il va réussir là où Evel Nivelle a échoué. Mais comment faire seul et sans argent? C'est à ce stade de l'histoire qu'intervient un homme du nom de Waldo Stakes.
J'avais lu un truc sur lui et je me suis dit que c'était le moyen de se faire un peu de sous. Il construisait une fusée à vapeur pour sauter au-dessus du Snake River Canyon. Donc je l'ai appelé et il me dit « Ouais, je construis cette fusée, blablabla. » Et il me dit « J'ai entendu parler de toi. » Un truc comme ça. Et je lui dis « Comment avance la fusée ?» Et il me répond « Elle avance bien, tu veux la voir ?» Et je dis « Ouais, je veux la voir. » Je suis allé la voir et il me dit « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je lui dis « Mais elle est pourrie, tu vas te tuer. » Alors il me lance « Tu peux me montrer comment faire pour pas me tuer ?» Et je lui réponds « Ok, ça marche. »
Baldo a le même âge que Mike. Un peu plus costaud, avec des tatouages légèrement effacés sur les biceps. Mais il a la même histoire. Une obsession pour les moteurs qui lui vient de son père et qui est passé des voitures de course aux fusées artisanales. Baldo a la technique, Mike n'a peur de rien. Ils font équipe. Mike emménage dans une maison dont Waldo est propriétaire, pas très loin d'Hollywood, en plein désert, et les deux se mettent au travail. Le garage se remplit de pièces de seconde main, des bouts de ferraille trouvés à la décharge, des plaques d'aluminium chinées pour une poignée de dollars, des parachutes poussiéreux sortis de stock obscur, il n'y a presque rien de neuf. Mais dès que Mike le peut, il soude, il visse, il emboîte et une fusée prend forme. Waldo explique, Mike conduit une limousine depuis tellement longtemps, eh bien maintenant il veut s'asseoir à l'arrière. Le 30 janvier 2014, Arizona. La fusée est en place. Le principe est simple, on met de l'eau sous pression à ébullition dans une cuve, on ouvre une valve et l'énergie fait décoller la fusée dans laquelle un parachute est prêt à être déployé pour l'atterrissage. Ce 30 janvier 2014, la limousine est garée à côté. Ça fait une semaine que Mad Mike dort dedans. Il n'a pas oublié le drapeau américain au sommet de la rampe. Il est 14h. 3, 2, 1, lancement. Une trentaine de secondes dans les airs et un atterrissage chaotique avec un parachute déchiré, c'est un miracle. Mad Mike est vivant après un vol de 418 mètres de long. Donc il a réussi, oui, nouveau record et donc nouvelle ambition. Une idée émerge dans son esprit. Aller dans l'espace, carrément, et partir cette fois à la verticale, comme les vrais astronautes. Mais ici comme ailleurs, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il faut 150 000 dollars. Alors il sollicite Internet. Il lance une fundraising, une cagnotte. Il dessine une affiche, tourne une vidéo de présentation et écrit un petit texte qui commence ainsi. Mad Mike a toujours voulu être connu. Alors, il a décidé un jour de construire sa fusée à vapeur et de faire un record du monde. Très mobilisateur, son projet attire deux contributeurs et la somme de $310. Alors, quelques jours plus tard, une nouvelle cagnotte apparaît. Celle-ci est lancée par la Flat Earth Community, la société de la Terre plate. Et on y lit ceci. Nous avons récemment été contactés par un homme du nom de Mad Mike Hughes. Ce n'est pas un casse-cou, c'est aussi un platiste. Dans son mail, il nous dit qu'il veut promouvoir nos idées. Sachant que la NASA n'envoie plus personne dans l'espace, Mad Mike pourrait être le seul à le faire. Il est important que nous le soutenions. Eh bien, en quelques jours, il récolte $8,500. Opération réussie. Mais dans quel monde est-il entré? Où a-t-il mis les pieds?
Voici le modèle de la Terre plate qui fait le plus consensus. Le pôle Nord est au centre. C'est comme une assiette. Et tout le reste ressemble à ce que vous connaissez sur un globe. À l'exception d'une chose, l'Antarctique n'est pas un continent couvert de neige de la taille de l'Australie. Il s'agit plutôt d'un énorme mur à l'extérieur qui retient toute l'eau des océans. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Mad Mike, le platiste.
Affaires Sensibles.
Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas? La courbure de la Terre devrait nous bloquer la vue. Et pourtant alors, pourquoi peut-on voir aussi loin?
Fabrice Drouel.
Pour découvrir qui sont ces gens qui croient que la Terre est plate, entrons avec Mike au congrès des platistes qui a lieu en 2018 à Denver, dans le Colorado.
Are you ready? Because we're taking it to the next level. The world is waking up. Join us in Denver this November for the Flat Earth International Conference 2018. Tickets are now available at fe2018.com. FEIC, USA Edition. Bigger, better, higher, and still as flat as ever.
C'est un hôtel sans prétention. On y entre sur liste et Mad Mike est inscrit. Il y a du monde, mais ce n'est pas plein. Non, il y a beaucoup de chaises vides devant les conférenciers qui discutent de la forme de la Terre dans la Bible, du mensonge de l'homme sur la Lune, ils en sont convaincus, et de toutes sortes de bizarreries. Mad Mike se ferait un chemin devant des stands qui proposent l'Ancien Testament, des ouvrages ésotériques, mais aussi une représentation étrange de la Terre, une map monde circulaire, parfaitement plate, avec les continents au milieu et autour une barrière de glace qui cerne les océans. Le tout recouvert d'un dôme en verre qu'ils doivent confondre avec la couche d'ozone qui, elle, malheureusement, est bien réelle. Qu'importe si on sait depuis plusieurs millénaires que la Terre n'est pas plate. Qu'importe qu'elle est sphère qui tourne autour du Soleil, non pas l'inverse, comme le disent les Saintes Écritures, et qui nous renvoie à la phrase somptueuse de Galilée devant ses juges ecclésiastiques. Et pourtant, elle tourne, les platistes, eux, ne croient que ce qu'ils voient. Or, ils ne voient jamais à l'horizon la prétendue courbe de la Terre, donc ils n'y croient pas. C'est aussi simple que ça. Sont-ils nombreux dans ce cas? On ne sait pas exactement. Un sondage prétend qu'il s'agit de 16% des Américains. Nous sommes entre 2016 et 2018. C'est la mairie de Trump, l'âge d'or du conspirationnisme. Et les platistes ne pensent pas que la science est trompée, ce qui donne parfaitement son droit. C'est le retour d'expérience. Non, c'est pire. Les platistes sont convaincus que la science ment et que ce mensonge est, comme dit Mad Mike, le domino qui fera tomber les autres. C'est ainsi que certains doutent du 11 septembre. D'autres pensent que les extraterrestres dirigent le monde, et bien plus sinistre. D'autres encore nient l'existence de la Shoah. L'Amérique se passionne pour ses complots. C'est pourquoi, dans cet hôtel à Denver, il y a presque autant de journalistes que de platistes. Contrairement aux apparences, la croyance en la Terre plate est récente. Elle naît dans la société puritaine anglaise du 19e siècle, avec un charlatan prêt à tout pour vendre des livres. Elle se transmet ensuite aux États-Unis parmi les créationnistes, ces personnes qui réfutent l'évolution de Darwin. Les platistes reviennent ensuite chroniquement dans l'actualité, aidés par des journaux qui s'en moquent, mais qui propagent leurs idées.
California man is getting ready to launch himself into the air.
To launch himself into space for the call.
He shot himself like 160 miles into space.
In a homemade rocket to prove that the Earth is flat.
Fuck, it's round. That's how this story ends.
He might just be crazy.
À la convention des platistes, Mad Mike serre des mains. Il connaît la plupart des intervenants. Il les a d'abord sollicités parce que les médias parlent d'eux et que ça lui fait de la pub. Mais il n'est pas loin de leurs idées. Lui aussi a tout appris tout seul. Il y a des années cela, quand il a su que les Indiens avaient été massacrés à la fin du 19e siècle, sa vision du monde a changé. Parce que si on lui a caché cela, qu'est-ce qu'on lui a caché d'autre, hein ? Alors il fait des recherches et découvre de drôles de choses. Par exemple, que George Bush est un pédocriminel. Vous commencez à vous questionner, dit-il. Et un jour, on vous parle de la Terre plate, et là, waouh ! Maintenant, Mad Mike y croit. Au fond, si les élites mentent impunément, alors tout le monde a le droit de croire en ses propres mensonges. Tout se vaut, et on peut adhérer aux pires stupidités au nom de la liberté d'opinion. Mais peut-être que la théorie platiste a résonné en lui. Ces gens refusent de croire que la Terre, la vie, nos existences ne seraient qu'une suite de coïncidences surgies du néant. Impossible ! Non, pour eux, il y a un créateur qui a placé les humains au centre de tout. Or, Mad Mike veut être au centre du centre. C'est sa raison de vivre. Il veut aller dans l'espace pour que le monde le regarde. Ça tombe bien, sa nouvelle fusée est prête. En mars 2018, il discute avec un ami sur la route vers la zone de lancement.
Il y a plusieurs passages dans la Bible sur la Terre plate. Elle ne bouge pas et tout tourne autour d'elle. C'est le centre de l'univers. Il y a un endroit où Lucifer a emmené Jésus, je crois. Je ne sais plus. C'est la plus haute montagne du monde, et de là-bas, il voyait les quatre coins, ce qui est impossible sur un globe. Moi, je me suis dit, est-ce que tout le truc du Big Bang a vraiment eu lieu ? Il n'y avait rien qui existait, et tout d'un coup, une explosion. C'est ça que je me suis dit, qu'est-ce qui a causé l'explosion ? Et puis pour de vrai, tu regardes le Soleil, est-ce qu'il a l'air d'être à 150 millions de kilomètres ? Pas pour moi.
C'est là que nous revenons au désert de Mojave, en Californie. Il y a là des journalistes d'Internet, dont les commentateurs de Noise TV, bien sûr. Mad Mike a posté des photos sur Facebook, il a récolté des commentaires du genre « Rends service à l'humanité, oublie tes parachutes ». J'espère que tu vas t'écraser, espèce d'abruti. D'autres annoncent, moi, je suis là que pour le carnage. Mad avait raison, maintenant qu'il est platiste, les gens parlent de lui. Mais ça le blesse. Il voudrait plutôt qu'on l'adore. Bon, il a dit au revoir à ses chats. Il leur a laissé un stock de croquettes au cas où il ne reviendrait pas. Là-bas, dans le désert, Valdo fait une prière avec lui et sort de son pick-up un bidon. On va le mettre dans la cuve en dernier, dit-il. C'est de l'eau bénite du Vatican, ça va te porter chance. Bien. Mike met son casque. Valdo l'aide à s'installer dans le cockpit. Ils échangent des derniers mots. Valdo descend l'échelle et la retire de la fusée. La suite, c'est nos commentateurs préférés pour la chaîne Noise TV qui nous la racontent.
Any second. Way! Holy shit, he did it!
Oh my God.
Ladies and gentlemen, brothers and sisters who are watching Noise TV right now, Mike just
did it, guys.
He did it. Whoa,
guys, he did it. For all of you, for all of you out there who doubted Mad Mike Hughes, he just shit in your face.
À une vitesse phénoménale, la fusée s'expulse de la rampe de lancement et disparaît dans le ciel. Une traînée blanche l'accompagne et un parachute se déploie au zénith de sa trajectoire. Il freine sa chute et alors que la fusée ballottée au bout de la corde, un deuxième parachute se déploie à 20 mètres du sol. La fusée touche terre sans s'écraser. Un 4x4 est déjà en route. Il fonce vers le point d'impact. Il arrive à la fusée, on ouvre le cockpit. Mad Mike est en vie. Bon, il a mal, mais c'est un miracle. Et tant pis s'il n'est allé qu'à 572 mètres d'altitude et que la courbure de la Terre n'est visible qu'à 11 km d'altitude. Mad Mike s'est propulsé dans le ciel et il en est redescendu vivant. Et alors qu'il se remet, il annonce la suite. Il est candidat au poste de gouverneur de Californie et il va construire avec Valdo une fusée-ballon qui l'emmènera tout là-haut, à 100 km d'altitude, à la frontière de l'atmosphère et de l'espace. Il deviendra le premier astronaute amateur. Pour les 50 ans des premiers pas sur la Lune, une chaîne de télévision appelée Science Channel prépare une émission intitulée Homemade Astronauts, astronautes amateurs.
I educated myself. This is my education here. If you have an interest in space, you can be involved in reinvention of everything that we have.
I'm 100% in.
This is a very dangerous thing to do.
We're going to space, man. That's it. That's the end of the conversation. We're going.
What are you scared of? I'm scared of being 70 years old and not doing everything I want to do.
Seul dans son salon avec ses chats, Mad Mike rêve de faire taire ceux qui se moquent, les commentaires haineux ou les journalistes condescendants. Il regarde autour de lui ce qu'il a exposé dans son salon. Des casques de pilote, des souvenirs de courses automobiles, des vieilles coupures de presse et les certifications de ses records du monde. Et puis il y a un petit totem indien qui lui rappelle le moment où il a compris que la société était un vaste mensonge. Puis il se lève et ouvre un tiroir. Il en sort une enveloppe. Dedans, il y a des touffes de poils blancs. Les poils de Jojo, le chat qu'il aimait tant. Le seul être vivant, pense-t-il, qu'il ait vraiment aimé. Il les emportera dans l'espace, ces poils. Il les prendra avec lui dans sa fusée, pile poil. Mais ce nouveau vaisseau, Mike et Valdo ont calculé qu'il coûterait plus de 2 millions de dollars. Il faut donc continuer à se faire connaître pour ramasser une telle somme et donc aller encore plus haut. De toute façon, la production de l'émission a besoin d'images exclusives. Il faut retenter l'expérience. C'est la seule solution pour se faire connaître, répétons-le, et lever des fonds. Avide de moquerie, les médias retournent voir Mad Mike. Il est invité sur la chaîne d'humour Comedy Central en octobre 2018.
Assez intelligent pour fabriquer une fusée, mais suffisamment stupide pour monter dedans.
C'est ça qu'on aime.
Il s'appelle Mad Mike, il a essayé de partir dans l'espace sans aucune autorisation pour voir de ses propres yeux si la Terre était plate. Deux fois.
T'as quel âge, mec ?
62 ans.
Et combien de fois t'es monté dans une fusée ?
Deux. Et je suis le seul gars dans l'histoire à avoir dessiné, construit et lancé sa propre fusée.
Et c'est légal de quitter la Terre ?
On va tenir au courant les autorités, mais on n'en est pas encore là. Il nous faut 2 millions de dollars pour aller dans l'espace.
Et t'en as combien ?
Je crois que j'ai 87 dollars sur moi.
Mad Mike se prête à l'humiliation pourvu qu'il soit le centre de l'attention. Croire à une absurdité est devenue la raison de son existence médiatique. Nous sommes alors en août 2019. Il tente un nouveau décollage. L'équipe de production est là, mais le lancement est annulé à cause d'une fuite. Deuxième essai quelques mois plus tard, la fusée surchauffe, impossible de décoller. Troisième tentative, troisième échec. La production s'impatiente. Noah Armstrong et Aldrin de Pacotille ont déjà dépensé 60 000 dollars de plus que prévu. Le 22 février 2020, Barstow, Californie, au bord de la route 66. Quatrième tentative. La fusée, cette fois, est violette. Et il y a un nouveau sponsor, HUD. Une appli de rencontre et un logo est imprimé sur le fuselage, des émojis pêche et aubergines. Pour ceux qui ne le savent pas, ça désigne les sexes féminins et masculins. Sur le trajet, Valdo fait part à Mike de son inquiétude tout de même. Tout se fait dans la précipitation avec l'urgence de l'émission. Et l'un de ses amis a fait un rêve dans lequel la fusée s'écrasait. Et si on envoyait la télé se faire foutre, dit Valdo. Annule, Mike. À chaque fois que tu montes dans un truc comme ça, tu joues ta vie. Mais Mike n'a pas prévu d'annuler. La production compte sur lui et des milliers de gens attendent son live. Cette fois, il refuse que Valdo mette de l'eau bénite dans le réservoir. On le voit monter péniblement l'échelle, son casque sur la tête. Il prend son temps. Il passe une jambe dans le cockpit, puis deux, et il se retrouve tête en bas dans sa fusée qui pointe vers le ciel. Valdo vient fermer le capot du cockpit. Salut mon pote ! Il n'y a même pas de compte à rebours. La fusée décolle sans prévenir à une vitesse phénoménale. Mais elle prend une trajectoire anormale. Un parachute se décroche dans les premiers mètres. En quelques secondes, on ne la voit plus la fusée et on n'entend plus que le silence du désert.
Is he ready to arm?
You ready to arm?
Yeah. Pull it!
Pull it.
Quand la capsule réapparaît, c'est à 400 mètres d'altitude et le nez droit vers le sol. Dans le talkie-walkie, l'équipe hurle à Mike de déclencher le parachute qui lui reste. Mais Mike ne répond pas. La fusée poursuit alors sa chute irrémédiable en direction du centre de la Terre. Ça s'appelle la gravité. Et elle s'écrase piteusement dans le sable et les broussailles avec un bruit de canette écrasée. Au loin, on ne voit plus qu'un petit nuage de poussière. Tout le monde fait silence, puis Valdo dit « Il va falloir enterrer Mike ».
Quand il est mort, je suis allé en Australie pendant quelques semaines pour me reposer. J'ai passé 2 semaines et demie bourré sur une plage. C'est comme ça que je me suis remis de la perte de mon ami Mike. Mike laisse un héritage. Mike a montré au monde que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous le voulez, vous pouvez tout faire. C'est un gars qui vivait dans sa voiture et 3 ans plus tard, le monde entier le connaît. Si ça, c'est pas un héritage, je sais pas ce que c'est.
La mort de Mike Max Hughes fait le tour du monde, c'est vrai. Aux États-Unis, au Japon, chez nous, en France et partout en Europe, on se demande ce qui a traversé la tête de cet étrange personnage et on rit méchamment de cette mort tellement absurde. Mad Mike, lit-on dans les journaux, n'a pas prouvé que la Terre était plate, mais il a vu que la Terre était dure. Ou celle-ci, Mad Mike est maintenant aussi plat que la Terre. L'astronaute amateur n'a pas atteint l'espace. Un petit pas pour l'homme, tout petit, mais rien d'autre. Un jour, un journaliste américain interroge un platiste. Lassé peut-être des élucubrations de son interlocuteur, il lui dit en substance « Vous faites beaucoup de bruit, hein, mais vous n'êtes pas nombreux. » Ce à quoi l'autre répond « Mais détrompez-vous, des platistes, il y en a partout sur le globe. » Aujourd'hui, les platistes, notre invité Jean-François Mayer, historien des mouvements religieux contemporains, en duplex avec nous des studios de la radio-télévision suisse à Genève, que nous remercions pour leur accueil. Bonjour Jean-François Mayer.
Bonjour.
Vos travaux ont porté entre autres choses sur les fondamentalismes ou sur les chrétiens évangéliques. Vous êtes le président d'un institut de réflexion sur les religions, appelé Religioscope, pour lequel vous avez publié un article intitulé, disons-nous, « Les nouveaux croyants de la Terre plate ». Alors pour cela, vous vous êtes rendu au congrès des platistes en 2018 à Deinva. Nous avons parlé de ce congrès dans le récit. Et d'abord, pourquoi un historien des religions s'intéresse-t-il aux platistes ?
Tout simplement parce que je m'intéresse aux croyances non conventionnelles, d'une part, et puis d'autre part, qu'un certain nombre de croyants à la Terre plate, je dirais même la majorité des croyants à la Terre plate, le font au nom de convictions religieuses, principalement chrétiennes, mais pas seulement. Il y a aussi des croyants platistes New Age, des croyants platistes athées, mais quand même à Denver, il était très clair que l'immense majorité avait des convictions chrétiennes, sans appartenir à un groupe bien spécifique, des gens qui pouvaient avoir différents enracinements ou être des chrétiens indépendants.
Ça nous renvoie vraiment au débat du temps de Galilée. Quelle impression vous font-ils, ces gens-là ?
Des gens évidemment charmants, c'est toujours la même chose.
Pourquoi,
quand
évidemment
on approche, parce que je m'attendais bien à ce que ce soit des gens qui se réunissant tous ensemble, retrouvant des personnes qui partagent les mêmes convictions, ils sont dans une atmosphère chaleureuse. Je vois déjà dans la file d'attente pour enregistrer les chambres à l'hôtel, chacun essayait de repérer des gens qu'il connaissait, on se congratulait, on s'embrassait, donc ils étaient très volontiers prêts à discuter, d'autant plus qu'il faut bien se rendre compte que même par rapport à quelqu'un qui ne partage pas leurs convictions, ils ont le plaisir de discuter dans l'espoir de pouvoir les partager, et parce que eux-mêmes, ça il faut aussi le faire remarquer, la plupart n'étaient pas du tout platistes quelques années auparavant. Ce qui est très frappant, c'est qu'à ce congrès de Denver, pratiquement aucun des orateurs en 2018 n'était déjà platiste avant 2015. Donc on a affaire à une sorte de nouvelle émergence platiste. Il y en avait eu précédemment, mais de nouvelles émergences platistes qui avaient été largement favorisées par les réseaux sociaux, en particulier par YouTube.
Et alors ceux qui étaient platistes et qui ne le sont plus sont des sortes d'apostats, puisque vous dites que c'est religieux. Ça montre aussi que les platistes ont un certain relief. Justement, comment s'y prendre pour ne pas tomber dans la moquerie quand on étudie ces personnes ?
Tout simplement parce qu'à partir du moment où une croyance non conventionnelle, une croyance même qui peut nous paraître surprenante, voire ridicule, attire l'adhésion d'un certain nombre de personnes, c'est déjà, pour le chercheur, une raison de s'y intéresser. Un message qui rassemble des gens, c'est déjà la construction d'un milieu, d'une société qui mérite l'attention. D'autant plus que ce qu'il faut voir, ça n'est pas simplement la croyance à la Terre plate, mais avec quels autres types de croyances elle va entrer en interaction, et il faut le dire, dans le cas de la Terre plate, bien sûr, on repère avant tout comme, je dirais, fil unificateur, fil rouge, des croyances complotistes. Très souvent, les gens qui adhèrent à la croyance à la Terre plate ont déjà des visions complotistes bien ancrées. C'est-à-dire que pour eux, la Terre plate, ce serait d'une certaine façon le complot ultime. Un des orateurs de Denver, Rob Skiba, disait une fois à une journaliste, vous savez, quand quelqu'un me demande si je peux lui parler de la Terre plate, je commence par lui poser deux questions. Est-ce que vous croyez que la NASA a envoyé des astronautes sur la Lune ? Est-ce que vous croyez vraiment que 19 musulmans ont fait sauter des tours à New York le 11 septembre ? Si la personne y croit, je me dis qu'il ne vaut même pas la peine de lui parler de la Terre plate.
Oui, effectivement. Est-ce que toutes ces personnes qui donnent dans la théorie du complot, le conspirationnisme, sont des personnes qui n'ont pas compris que l'être humain n'est pas forcément fabriqué, conçu pour tout savoir, et que le mystère fait partie de la vie, et que la science, probablement, au fil des années, au fil des siècles, apportera des réponses qu'on n'a pas encore en ce moment.
Oh, ils sont volontiers prêts à l'admettre, mais ils pensent, dans ce cas-là, à d'autres modèles scientifiques. C'est-à-dire que ce qui les motive avant tout, c'est l'esprit critique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certains sont aussi prêts à remettre en cause leurs croyances. On pourra en parler si ça vous intéresse. Mm-hmm. Il y a, depuis quelques mois, un mouvement de figure centrale du platisme qui tourne le dos à la Terre plate.
Ah ben, expliquez-nous, puisque vous faites la digression, c'est bien, oui, allez-y.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, à la fin de l'année 2024, quelqu'un qui n'est pas du tout un croyant à la Terre plate, mais qui favorisait le dialogue avec les platistes, a proposé de faire une expérience, c'est-à-dire aller dans l'Antarctique pour voir si le soleil au cœur de l'été réellement était visible pendant 24 heures par jour, ce qui en principe serait impossible sur une Terre plate avec un modèle de dôme autour de laquelle tombe le soleil. Et donc il a emmené à la fois des platistes et des globistes, et l'un des participants platistes, d'une des plus éminentes figures du platisme sur Internet, a reconnu qu'il avait été convaincu que, en effet, sa croyance à la Terre plate était non valide, qu'il y renonçait. Et dans le sillage, plusieurs figures importantes du platisme américain, ces derniers mois, ont annoncé qu'ils renonçaient à leur croyance à la Terre plate. Et l'un de ceux-ci, en avril dernier, c'est Robbie Davidson, qui a organisé les 4 conférences internationales de la Terre plate et qu'il dit « je n'y crois plus ». On peut se poser la question, d'ailleurs, de savoir si ça n'est pas, à un moment, des gens qui avaient déjà un peu leurs doutes et qui ont trouvé là, à travers cette expérience qui était intitulée « The Final Experiment », à travers cette expérience, ont trouvé aussi peut-être l'occasion de décrocher. Ça ne signifie pas nécessairement que ces gens n'adhèrent pas peut-être à d'autres croyances non conventionnelles. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que la Terre plate, très souvent, prenait place dans un ensemble d'autres croyances et donc on peut parfaitement sacrifier la Terre plate, tout en continuant peut-être à avoir des doutes sur d'autres points.
Et ça allait encore plus loin dans votre article. Vous citez une femme qui dit « La Terre plate a apporté un but à ma vie ». Carrément.
Oui, et celle-ci, justement, elle a aussi abandonné la croyance à la Terre plate. Elle l'a annoncé également au printemps. Mais effectivement, elle avait un but à la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tout à coup le sentiment d'adhérer, de savoir quelque chose que le reste du monde ne sait pas. Mais d'avoir compris ce qui se joue derrière les paravents, ce qui se joue derrière la scène. Et à partir de là, évidemment, ça a quelque chose de très excitant, de très grisant. Même le fait qu'il peut être inconfortable d'être en désaccord avec la majeure partie de l'humanité, ça peut avoir quelque chose de très motivant. Et c'est un peu, je pense, ce qui était le cas chez cette femme qui avoue qu'elle était tombée sur les théories de la Terre plate à un moment où, dans sa vie, elle s'ennuyait. Et tout à coup, elle découvre un monde, une cause à embrasser, en quelque sorte. Et ça a quelque chose à la fois de très compréhensible et puis, j'allais dire, en soi, de très respectable d'avoir de l'esprit critique et d'embrasser une cause. Évidemment, il est clair qu'on peut aussi mettre toute cette énergie au service d'autres causes. Nous sommes bien d'accord.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Mad Mike, le personnage central de notre récit, était présent au congrès des platistes, Jean-François Mayer. Vous y étiez aussi, est-ce que vous l'avez rencontré?
Alors je l'ai salué, mais ce qui m'intéressait avant tout, ça n'était pas les vedettes du congrès. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le public. Et dans votre description, je dirais que quand même la salle était pleine à certaines des séances. Il y avait environ, selon les journalistes qui étaient là, 650 participants. Alors bon, il y avait en effet quelques dizaines de journalistes, de chercheurs, mais il y avait quand même bien, je pense, pas loin de 500 platistes plus ou moins convaincus qui étaient venus des quatre coins des États-Unis et pour quelques-uns même depuis l'Europe ou l'Amérique du Sud. C'est ce qui m'intéressait, c'était de comprendre un peu les profils de ces participants. Oui. Pourquoi est-ce que ces gens, ces anonymes, adhèrent au platisme? Les principales figures, je plutôt écouter leurs exposés, mais j'ai passé le maximum de temps à me mêler aux gens, à boire
des bières avec eux, à essayer d'échanger de façon informelle pour comprendre ses itinéraires.
Et parmi ces gens, est-ce qu'il y en a comme Mad Mike qui sont entrés dans ce monde parce qu'il est médiatisé? Vous savez, c'est le fameux besoin de reconnaissance, de célébrité. C'était une lourde pathologie sociale, je dis ça, parce que ça a débouché sur tellement de drames.
Alors, il y a le besoin de reconnaissance, mais il ne faut pas oublier que ça peut être aussi un grand sacrifice d'adhérer à une croyance non conventionnelle comme celle-ci. Certains avouaient, et d'autres chercheurs ont observé aux États-Unis ou en Europe la même chose, qu'ils avaient par exemple perdu des relations familiales à cause de leurs croyances très particulières. Pour les organisateurs de ce genre d'événements, pour les figures, je dirais les entrepreneurs de la Terre plate, qui vraiment commençaient à organiser toute une production de livres, de vidéos autour de la Terre plate, cette médiatisation était évidemment un avantage. Et d'ailleurs, Robbie Davidson, qui est maintenant donc un apostat de la Terre plate, lui-même reconnaissait auprès de journalistes, mais que ça lui rendait grand service, peu importe qu'on en parle en bien, en mal, mais à partir du moment où on parle de la Terre plate, nécessairement, on va amener un nombre croissant de gens à s'y intéresser, et surtout pour une croyance aussi facilement accessible à travers des vidéos YouTube, c'était évidemment un atout. Il faut dire d'ailleurs que YouTube, en 2019, a commencé à modifier ses algorithmes de façon à ce qu'on puisse moins facilement à, trouver les vidéos de propagande platiste. Donc TikTok, en revanche, pas encore, mais YouTube reste malgré tout le canal le plus important pour les croyances platistes.
Oui, c'est-à-dire c'est le canal le plus regardé au monde pour tout, d'ailleurs.
Oui,
j'ai vu une statistique il n'y a pas longtemps. Alors oui. Là, on parle des réseaux. Quel rôle ont joué ou jouent les médias, les radios, les télés, les journaux dans le phénomène platiste?
Évidemment, ils sont une caisse de résonance, mais en même temps, dans la mesure où il y a effectivement un phénomène, c'est-à-dire il y a bel et bien eu une émergence à partir de 2015 environ, il est assez normal qu'on s'y intéresse, outre le fait que, évidemment, le caractère assez inhabituel peut séduire les rédactions, parce qu'on pense bien que les gens vont lire ça en souriant, en se demandant « mais comment est-ce possible ?» etc. Donc je dirais, ça n'est pas simplement une création médiatique. L'intérêt des médias existait déjà quand il y avait eu précédemment de plus petites associations de la Terre plate avec un écho bien moindre et évidemment pas encore une présence sur les réseaux sociaux. Mais dans le cas de ce qui s'est produit à partir de 2015, il y avait, je dirais, un légitime intérêt, surtout vu les interactions que j'ai déjà mentionnées oui. avec d'autres types de croyances.
Bien sûr, notamment, on peut faire le parallèle entre la contestation du dérèglement climatique dont Monsieur Trump est la plus grande figure aujourd'hui et la contestation d'une Terre sphérique.
Oui, alors bon, évidemment, il faut bien se rendre compte que quand on adhère à des théories de type complotiste, ça ne signifie pas nécessairement qu'on prend tout en bloc. Il peut très bien y avoir, bon, la plupart des complotistes n'adhèrent absolument pas à la Terre plate. De la même façon, la plupart des créationnistes trouvent que la Terre plate est absolument ridicule. Donc il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui est sélectif, mais bien sûr, tout cela s'intègre dans un contexte. Par exemple, la première fois que, pour ma part, j'ai entendu parler de QAnon, c'était par des participants de la conférence de la Terre plate à Denver. Donc, qui me disaient, mais comment vous ne suivez pas QAnon, vous allez voir ce qui va se passer, etc. Donc voilà, et là, évidemment, c'est aussi quelque chose qui mérite l'attention, cette circulation des croyances, surtout parce qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle une sorte de méfiance envers toutes les élites, je ne dirais pas simplement les élites, entre guillemets, politiques, mais également la science, le monde universitaire. Je me souviens à Denver d'avoir parlé avec des gens et je mentionne incidemment que je suis chercheur universitaire et la réaction, tout en restant très gentil, c'est dire « All academics are corrupt. Tous les universitaires sont corrompus. » C'est-à-dire, ils participent à la perpétuation oui. du mensonge, etc. Donc, ça signifie évidemment qu'il y a une sorte de défiance de principe envers tout ce qu'on veut nous faire croire, c'est selon ça. Cette interprétation. Et évidemment, si ces élites réussissent à nous faire croire à la Terre plate, vous pensez bien qu'elles peuvent nous faire croire à beaucoup d'autres choses. C'est un peu ça, le raisonnement.
Ce sera le mot de la fin. C'est toujours un peu brutal hein, quand on parle de choses intéressantes.
Mais évidemment.
Ben, l'heure, c'est l'heure. Merci. Merci infiniment,
Jean-François Maillard. Merci de m'avoir accueilli.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les platistes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau.